chapitre 10. Donc la première dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 45. Et la seconde sera dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître, au chapitre 13, les versets 1 à 7. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit « La coupe que moi je bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les 10 autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Et dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. » Amen.
Merci Phoebe. Alors la foi, l'espérance et l'amour, c'est effectivement tout un programme. C'est comme si la Bible et les textes proposés à notre méditation semaine après semaine ne faisaient jamais autre chose que de nous inviter à vivre toujours plus l'idéal d'amour qu'annonce l'Évangile de Jésus-Christ. Mais avant d'en arriver là, revenons aux Écritures de ce jour pour en discuter en 3 points. Tout d'abord, la vanité de la demande des disciples. Ensuite, la grandeur de la servitude. Et enfin, avec ce texte célébrissime de saint Paul aux Corinthiens, qu'on a tous entendu dans des mariages, l'importance de l'amour au-dessus de tout. Alors, pour comprendre la vanité de la demande des disciples, je pense qu'il est important, en tout cas pour moi, quand je lisais le texte, de le remettre dans son contexte et de revenir au texte qui, en fait, était dit juste avant le passage que nous a lu Phoebe aujourd'hui. Et je vous le lis parce qu'il est très court, le passage d'avant. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. » Ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Et alors là, c'est extraordinaire quand on lit ce texte et qu'ensuite on lit donc le texte de Marc 10, 35-45, c'est qu'en fait, alors que Jésus vient d'annoncer sa mort et ses souffrances prochaines, les deux disciples, Jacques et Jean, sont tournés vers eux-mêmes. Ils n'entendent tout simplement pas ce que Jésus leur dit et commencent par « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons », ce qui est quand même extraordinaire. Après que quelqu'un a annoncé une souffrance arrivée qui sera énorme, que quelqu'un dise ben « Moi, finalement, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose pour moi ». Et en fait, les disciples, ce qui est intéressant, ne dévoilent pas tout de suite ce qu'ils veulent, mais leur demande semble déjà déplacée, car elle est tournée vers eux-mêmes, comme je le disais, et non vers le Seigneur. Et avec la suite, on peut être encore plus étonné. Non seulement demandent-ils quelque chose qui les concerne eux, et non pas Jésus, mais en plus ils disent « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être ainsi l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Autrement dit, ils leur demandent de s'asseoir dans la gloire de Dieu. Et ce qui est le plus étonnant ici, c'est que ce ne sont pas des hommes qui ont suivi Jésus depuis le début de son ministère, qui sont devenus ses amis, qui l'ont vu et entendu enseigner, qui ont cheminé avec lui, et qui, comme nous, sont finalement capables de sortir ces énormités. J'aimerais bien être assis à côté de Dieu. Ils ont complètement oublié les souffrances de Jésus. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, des souffrances énormes, une humiliation énorme, pour seulement se concentrer sur la dernière phrase du texte précédent, le texte que je lisais avant, et 3 jours après, il ressuscitera. Ici, en fait, il ne demande rien de moins qu'une réservation pour les meilleures places au ciel. Et finalement, la bonne place, on veut tous la bonne place. Et je souris en pensant à Phoebe parce qu'elle m'a donné l'idée. C'est plus fort que nous et c'est dans la nature humaine, que ce soit les petites choses de la vie. Donc, on veut tous la bonne place au cinéma, le bon siège au milieu de la salle, pas trop près de l'écran. On veut tous la bonne place dans le vol EasyJet ou aussi dans des situations plus sérieuses comme une place dans la bonne école, une bonne place dans l'entreprise, etc. Mais dans la vie future, quelle sera la bonne place? Et est-ce qu'il y aura seulement une droite et une gauche? Et y aura-t-il seulement un trône? Ou est-ce juste une image pour essayer de nous faire comprendre le règne de Dieu? Vous remarquerez au passage, et c'est intéressant, que personne ne se propose pour être de manière beaucoup plus concrète à la droite ou à la gauche de Jésus quand il sera sur la croix. C'est bien sûr moins prestigieux, et on s'en souvient, au moment de la crucifixion, à droite et à gauche, il n'y a que 2 brigands. Et ce qui est très étonnant, comme je le disais précédemment, c'est que ceux qui font cette demande, ce sont les plus proches de Jésus, selon les évangiles. Et parce que ce sont les plus proches, justement, on n'aurait pas du tout attendu cette revendication de leur part. Ils ont une exigence pour la vie future, ils veulent régner à droite et à gauche quand il sera sur son trône de gloire. Traduisez, ils veulent régner, siéger, juger, ordonner, en fait c'est à peine s'ils ne voudraient pas la place de Dieu lui-même. Et cette demande en fait des disciples renvoie Jésus à sa solitude extrême à venir, lorsqu'en fait il sera seul pour boire la coupe et recevoir le baptême. Et je cite le texte. Boire la coupe et recevoir le baptême, c'est le symbole de la mort que Jésus va devoir endurer avant la résurrection. Et les disciples tentent de le rassurer en lui disant qu'ils seront là avec lui pour boire la coupe et recevoir le baptême, c'est leur première réponse. Jésus acquiesce à ces paroles, mais il sait, il connaît déjà les souffrances à venir, il mesure en même temps le chemin que les disciples doivent encore parcourir. Ses disciples n'ont pas encore compris ce qui les attend. Alors pour conclure sur la demande des disciples de s'asseoir à sa droite et à sa gauche dans sa gloire, Jésus en fait répond tout simplement qu'il ne sait pas tout, que cela va au-delà de lui-même, et il répond « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » La réponse n'appartient pas. Et c'est là que Jésus, dans ses prédications et ses paroles aux disciples, à mon sens, fait preuve d'une grande intelligence. Parce que pour couper court à la demande des disciples, en fait, il déplace le débat. Et ce qui est toujours très intéressant quand on pense au leadership et quand on a une question directe qui est posée, c'est toujours intéressant de voir comment on déplace en fait la question. Il déplace le débat et il leur indique qu'en fait, quelle est la voie à suivre pour devenir grand? Parce que ce que vous voulez fondamentalement, c'est être grand. Donc, que devez-vous faire pour être grand? Et c'est mon deuxième point, sur la grandeur de la servitude. Il répond en disant, « Ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneur. » Et ici, le verbe « paraître » est très important et intéressant dans cette phrase. Car cela sous-entend que ceux que l'on regarde comme des chefs, qui paraissent être des chefs, ne sont en fait pas de vrais chefs. Ils le sont peut-être au regard des catégories de notre monde, peut-être au regard de ceux qui pensent que être le chef, c'est avoir la place à l'avant du vol EasyJet, mais certainement pas au regard de l'Évangile. Les vrais gouvernants, ceux qui font qu'une société tient debout, ce sont les justes, ceux qui se mettent au service de leur prochain, qui créent du lien, qui prennent soin des autres, qui soulagent, qui éduquent. Souvent, ils ne sont pas connus, mais ce sont les vrais grands. Et Jésus nous dit, « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Le plus grand, selon les catégories de l'Évangile, est le serviteur. Et je reprendrai un texte d'un des derniers sermons de Martin Luther King, « Everyone can be great because everyone can serve. » Et en reprenant en français, « Tout le monde peut accomplir de grandes choses parce que tout le monde peut servir. » Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour servir. Vous n'avez pas besoin de connaître Platon et Aristote pour servir. Vous n'avez pas besoin d'être fort en physique ni de connaître la seconde théorie de la thermodynamique pour servir. Vous avez simplement besoin d'un cœur touché par la grâce, d'une âme engendrée par l'amour. Et Martin Luther King continue son discours. Les messages de la société me disent que les grands sont ceux qui sont sous la lumière. La logique du pouvoir consiste à exercer sa domination pour asseoir son autorité, mais telle n'est pas la logique du baptême. Jésus le redit à ses disciples, « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Tous ceux qui sont détenteurs d'un pouvoir, quel qu'il soit, doivent être convaincus que tout pouvoir est potentiellement satanique et que l'on peut casser sa logique en l'abordant à partir du prisme du baptême, de la mort à soi-même et du service au prochain. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, veulent être aux côtés de Jésus dans sa gloire. Ce dernier leur répond, ce n'est pas difficile, il leur suffit de devenir l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme, et je cite le texte, l'Évangile, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon à une multitude. Tous les hommes, juifs et non-juifs, sont responsables de la mort du Fils de Dieu, et Jésus a payé pour nous tous. C'est le service ultime. Une rançon est un prix à payer pour libérer un prisonnier. Ici, il ne convient pas de savoir à qui elle a été payée, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est de savoir qu'elle a été payée pour nous, pour toute l'humanité. Face à tout ce qui pourrait m'empêcher d'être libre, face à tous ceux qui contesteraient ma liberté, je n'ai qu'une réponse, la rançon a été payée. En fait, Jésus nous dit, aujourd'hui tu es de l'autre côté de la croix, tu es sauvé gratuitement et les cieux sont en fête. Maintenant il faut se lever et servir, devenir tous, toujours plus, servantes ou serviteurs. C'est ce à quoi je t'appelle et ne crains pas, je chemine tout près, je veille, alors avançons ensemble, toi et moi, dans le présent. Oui, voilà peut-être en substance l'appel de Jésus dans ce texte qu'il adresse aux amis que nous sommes aujourd'hui. Et alors, je conclurai sur le passage donc de l'épître de saint Paul aux Corinthiens et finalement l'importance de l'amour au-dessus de tout. Car voilà donc un passage qui nous invite à servir notre prochain, je viens de le dire, et à le servir ici et maintenant. Mais moi, que je serve les autres, c'est très bien. Que j'ai la foi, c'est très bien. Que je fonctionne avec une espérance qui me permette d'avancer plus sereinement dans l'existence, c'est parfait. Mais en fait, ce que nous dit Paul, c'est que tout cela est complètement vain et inutile si je n'ai pas l'amour. Comme il nous le rappelle, et je lis le texte, « Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais si que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le fait de distribuer tous ses biens devait être considéré comme le sommet de la foi. En théorie, il vaut peut-être mieux avoir une vraie générosité raisonnable en donnant par exemple 10% de ses revenus avec amour que de vibrer à l'évocation de ceux qui distribuent tous leurs biens et de rester insensible aux frères dans le besoin. Un acte de générosité sans amour est un acte d'orgueil. Paul ensuite qualifie l'amour de plusieurs adjectifs et il nous appelle à la patience et à l'absence de jalousie. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour est au sommet de toutes les vertus et s'accompagne de discrétion. Il n'oublie pas que le plus important est parfois le plus caché. En conclusion, ces deux textes de Marc et de Paul nous rappellent que notre volonté instinctive de pouvoir est vaine. Les vrais gouvernants ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Martin Luther King nous rappelle qu'être grand, c'est servir autrui. Mais au-delà du service, des dons et de la foi, il y a une force plus grande encore, l'amour. L'amour avec considération, avec patience et sans jalousie. Nous avons la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour dans le service. Amen.